vendredi 7 octobre 2011, il est 18h sur Radio Grenouille, Radio Grenouille que vous écoutez sur les 3.8 de la bande FM ou sur radiogrenouille.com sur le web. C'est la première émission spéciale imaginée à l'occasion de Small is Beautiful, cette manifestation art de la rue imaginée et organisée par lieu public, le Centre National de Création des Arts de la Rue à Marseille, à Aubagne et à Martigues. Donc une dizaine de jours de programmation qui ont une manifestation qui a débuté mercredi dernier par un premier spectacle de Jean-Georges Tartare. Jean-Georges Tartare qui fait l'ouverture de Small is Beautiful et qui fait les trois premières soirées de cette manifestation et qui se clôturera samedi prochain à Saint-André, le quartier de lieu public, mais plus pour longtemps puisque lieu public va rejoindre la Cité des Arts de la Rue très vite. Ce sera une soirée de clôture où il y aura le concert de public de Pierre Sauvageau, donc compositeur mais aussi directeur de ce centre national, et le Turbo Clap Station, un hypno clap party pour clôturer donc en musique cette cinquième édition de Small is Beautiful. Cette première émission, ben, nous allons la passer en compagnie de Jean-Georges Tartare. Bonsoir Jean-Georges.
Salut.
Jean-Georges, donc Tartare, qui était il y a mercredi soir et jeudi soir au pied de la cathédrale Saint-Victor à Marseille pour présenter 2A à chaque fois. Alors je ne sais pas si vous connaissez son recueil, le AAA.A. Alors c'est Afrique, Amérique, Asie, ailleurs et adieu. Je ne sais pas si je l'ai dit dans l'ordre, mais en tout cas ce sont les A. Et donc il y a eu cette petite présentation. Et ce soir, il va y avoir une nuit Tartare, 6h30, où il va y avoir l'intégrale de ces A, plus une exposition et plus des surprises. Jean-Georges nous dira de quoi il s'agit exactement pendant cette nuit. Une nuit qui initialement était prévue à Corbière, à l'Estac, mais vu le Mistral, il a fallu prendre la décision de se rapatrier. Et donc ça va se passer dans le hangar de lieu public, rue Condorcet, à Saint-André. Cette émission, donc, nous allons la passer en compagnie de Jean-Georges Tartare. Elle sera aussi émaillée par des chroniques de différents intervenants. Alors certains qui participent à Small is Beautiful, d'autres non. Donc il y aura la promenade du jour de Nicolas Mémin, il y aura la chronique de psychanalyse urbaine de Laurent Petit de la NPU, il y aura des morceaux de musique du théâtre à l'envers, il y aura la chronique des beaux parleurs. Mais pour commencer, on va écouter une première chronique signée Espace Sonore. Alors Espace Sonore, vous pourrez les retrouver dans quelques jours dans le cadre de Small is Beautiful à la gare Saint-Charles. C'est eux qui proposent un parapluie pour deux, c'est-à-dire une balade. Vous êtes deux sous le parapluie et le parapluie sert de diffuseur sonore pour des petits sons qui réalisent et qui sont entendus donc de façon intime par les deux promeneurs. Alors, première chronique.
Depuis que j'ai eu les deux oreilles éclatées, donc ça s'est cicatrisé. Mais ce qu'il y a, c'est que des fois, le son, j'ai l'impression que ça fait un peu comme une enceinte. Quand on met une baffe et on enlève l'autre. Alors un coup, j'ai tout le son d'un côté et pas de l'autre. Ou alors, je vais être en train de parler et hop, ça va tout repasser de l'autre côté. Et j'ai rien à entendre de l'autre.
Je vis avec des sifflements.
que j'aimerais pas venir sur l'eau. C'est un truc que ça m'a supporté.
C'est vrai, tu vois, ça isole.
Espace sonore, donc sur les 3-8, une première chronique, donc leur proposition dans Small It's Beautiful s'appelle Un pépin pour deux, ça aura lieu mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 octobre de 16h30 à 20h30 sur l'esplanade de la gare Saint-Charles. Il y aura des départs en parapluie toutes les 5 minutes. Alors Jean-Georges Tartare, bon, tout le monde le connaît, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je rappelle que c'est on le connaît sous le nom de Griot Blanc, en fait. Il déclare qu'il bouffe la terre avant qu'elle ne le bouffe. Il a fait plusieurs fois le tour du monde, d'où il ramène tout un tas d'histoires qu'il raconte d'habitude auprès d'un arbre, entre un arbre et un squelette, avec un perroquet sur l'épaule, un peu de partout dans le monde également. Il a été également reporter avec un cadre qui se promenait dans le quotidien de la ville comme ça, et il décrivait l'actualité de l'endroit où il se trouvait de façon tout à fait passionnante. Il a été le maire d'Eu aussi à partir de cette fameuse année 2003 où il y a eu beaucoup d'agitation dans le milieu culturel. Donc il a été le maire de toutes les villes, en fait, qui accueillit les arts de la rue, je crois, quelque chose comme ça, Jean-Georges.
C'est-à-dire qu'en 2003, quand il y a eu effectivement la grande période de saccage de l'intermittence et que les artistes ont réagi, ils m'ont proposé, moi je m'étais mis en retraite, et ils m'ont proposé de reprendre la parole. Et j'ai trouvé très, très, très sympa et sans doute utile de retrouver mon rôle de grande gueule de rue. Et je pouvais pas refuser ça. Au contraire, j'ai retrouvé les radicaux, les fondamentaux, comme on dit dans le rugby.
Alors Jean-Georges a été aussi longtemps le compagnon de route de Générique Vapeur, pardon, donc une figure incontournable des arts de la rue. Il a une grande barbe blanche, on lui demandera depuis combien de temps elle pousse, elle doit faire à peu près 60 cm. Et hier, je l'ai aperçu sur la place en bas de la cathédrale Saint-Victor en slip jaune fluo, et donc il est bronzé de partout. Donc Jean-Georges, cette nuit Tartare qui devait initialement se dérouler à Corbière ce soir est rapatriée pour cause de mistral un peu trop virulent dans le hangar de lieu public, donc rue Condorcet à Saint-André. Qu'est-ce qui va se passer dans cette nuit Tartare?
Eh ben voilà, comme tu le disais, je bouffe la terre avant qu'elle me bouffe, c'est-à-dire chez l'hirondelle. Dès qu'il fait un peu froid en Europe, je me casse pendant 5-6 mois, et puis je vais du côté de l'équateur, sur différents continents, c'est ça les ha 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 ha, c'est A comme Afrique, A comme Asie, A comme Amérique, A comme Haïti, pourquoi pas, parce que le H de Haïti, c'est une invention de blanc, et d'autres A comme ça, il y a l'Australie et l'Antarctique, pas encore, parce que j'aime pas le froid. Et pendant cette nuit, eh bien, j'ai raconté pendant 6 heures 5 récits correspondant à peu près à 5 continents, sachant que parmi ceux-là, les continents, il y a ailleurs.
Et adieu.
Et adieu. Ciao, on se casse.
Comment ça s'est passé à Saint-Victor, là, mercredi et jeudi soir? Il y avait les cloches un peu envahissantes à certains moments, non?
Oui, les curés tapent les quarts d'heure, je ne sais pas très bien pourquoi. Oui, c'est envahissant. Ça m'arrive de blaguer avec ça quand je suis dans la rue. Et puis, bon, on fait quelques blagues et puis ça fait rire tout le monde. Là, je n'ai pas blagué parce qu'il aurait fallu sortir une blague nouvelle tous les quarts d'heure. Voilà, le monde est catholique, on est là-dedans. Quoi. Quand je suis ailleurs, ça peut être un voisin. Je trouve un peu plus agréable, surtout quand il est à voix nue. Ce serait sympa que le curé d'ailleurs se promène dans le quartier en disant venez prier, venez prier. La cloche a un côté comme ça moderne, je trouve. tout le monde pense que c'est ringard, non, c'est moderne, c'est un truc moderne pour dire aux gens, presque aux moutons, quoi. On peut attirer les moutons avec la cloche aussi pour les faire bouffer, ou voilà, avec le réflexe de Pavlov, on leur dit c'est l'heure de venir prier. Bon, ils m'ont pas trop embêté, en tout cas leur proximité, la proximité de l'abbaye Saint-Victor. Elle m'a dit à plusieurs endroits, quand par exemple je raconte mon baptême, tu as entendu ça, comme est-ce que je me souviens de mon baptême comme si c'était ce matin. Et la proximité de l'église, ça m'a fait un superbe décor. Voilà.
Alors, hier soir, il y avait l'arbre, parce qu'il y a un magnifique platane sur cette place en bas de l'église Saint-Victor. Il y avait le squelette aussi, au sol. Alors, l'arbre qui va vers le ciel, le squelette vers la terre. Il n'y avait pas le perroquet. Il est où ?
Mais le perroquet, il est en pension depuis quelques jours, parce que je ne peux pas l'emmener en voyage. C'est beaucoup trop galère, histoire d'hygiène, de sécurité, de papier, de tout ça, il nous mettait en quarantaine. Et donc, Bakou, il s'appelle le perroquet, m'accompagne pas en voyage. Il est dans une famille de cirques, les Kerwish, 8 générations de cirques qui sont à Aubagne à côté, des gens merveilleux, et qui ont des animaux, des chiens, des pigeons, des choses comme ça, ils font des numéros. Ils connaissent très bien les haras, il faut vraiment bien connaître pour s'en occuper. C'est un vrai cheval, hein. C'est une présence incroyable. Et alors là, ça fait 2 jours que je l'ai quitté, je pense toujours à lui, j'aimerais l'avoir ici avec moi. Et donc il est en pension d'hiver, voilà.
Et il n'y avait pas la caravane non plus ?
Quelle caravane ?
La caravane qui devait être ce soir à Corbières ?
Oui, parce que la caravane, c'est un projet des amis, mais la caravane, c'est une vieille demoiselle. Elle a plus de 100 ans, c'est en fait une roulotte, ce qu'on appelle une verdine. Elle a plus de 100 ans et... Comme les lois se multiplient dans la rue, elle ne peut plus rouler, on lui interdit de rouler. C'est un peu comme les vieux, on leur interdit de se promener et on les met en maison de retraite. Donc tu vois, tout ça n'est pas très gai. Hein, le perroquet en pension, la roulotte en maison de retraite, enfin, nous on est là quand même. Et puis à main nue.
À main nue, ouais, c'est vrai que...
La corde nue, corde vocale.
Ce qui caractérise, une des caractéristiques de ton travail, c'est l'économie de moyens, quoi. C'est un bic dans la poche, des feuilles de papier, et une voix, une écriture, enfin rien du tout, quoi. Un arbre, économie de moyens.
Oui, pour des raisons très simples et historiques, c'est que j'ai commencé à aller dans la rue quand j'allais à Avignon, à la rencontre des gens qui disaient qu'ils voulaient faire du théâtre populaire. Et je suis du peuple. Milieu paysan, ouvrier, quand je suis arrivé là-dedans, j'ai halluciné parce que ça puait le Chanel 5 et c'était habillé, je ne sais quelle marque, pas Gautier à l'époque, mais bon, genre. Et puis je voyais ces gens qui parlaient du nom public, ce qui est un bon moyen pour aimer le public, de le désigner comme ça, ce nom public. Donc je gueulais dans les débats au verger urbain 5, là. Donc ils m'ont foutu dehors. Et j'étais une main devant, une main derrière. Et j'ai commencé à dire dans la rue ce que je pensais de tout ça. J'ai créé une fanzine, un petit journal qui s'appelait l'Osservatore Avignonese. Donc là, c'est encore léger, c'est du papier, j'écris ce que je pense. Et puis je le vends à 1 franc, ça payait mes bières, place de l'horloge. Voilà, ça commençait comme ça. Voilà. Et comme c'est ce que j'ai dans la tronche qui fonctionne, et essentiellement les colères, c'est le ressort principal. Ce qui ne me plaît pas, je le dis. J'ai ma tronche, ça y est, je l'ai, l'ordi, il est dans la boîte. Quoi. Voilà.
Et le nom de Tartare, c'est arrivé à ce moment-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire. C'est l'idée du cru ? Ça veut dire ça va être cru ?
Ah, ça n'a pas été pensé comme ça. Le mec qui m'a baptisé comme ça, il est mort et je ne lui ai jamais demandé pourquoi il m'avait baptisé comme ça. Donc on ne saura jamais. Je peux simplement dire que ouais, il y a le côté cru, il y a le côté sauvage, il y a le côté mongol, il y a le côté envahisseur, il y a le côté attention, on arrive et bougez-vous, ou on fout le feu, ou on coupe les têtes. Côté un peu. Voilà, et puis la sonorité du mot aussi qui est tartare. Et j'habite à Cerbère. Tartare, ça me fait rire, parce que c'est le nom ancien des enfers. C'est même l'enfer des enfers chez les Grecs. C'est là où on foutait les mecs qui avaient fait vraiment les grosses, grosses conneries, genre cracher sur les dieux, tuer le roi, etc. Et Cerbère, c'est le gardien des enfers. J'ajouterais pour clore avec une cerise sur le gâteau, c'est que mon camping-car, il est du modèle 666. Voilà. Donc, que tout le monde se sente à l'aise.
Ouh, va des rétros, Satanas. Alors, ce rapport un peu barbare, est-ce que j'ai l'impression, t'as un rapport à la langue qui me semble relever du même ordre. Je me demandais, est-ce que le rapport qu'on a à la langue, il témoigne du rapport qu'on a à la réalité, à la vie, pour toi ?
Bien sûr, et là on est dans le vif du sujet, direct, tout passe par les mots. Quand j'avais 20 ans, je me suis cassé en Corse pour écrire. Je dis, je ne vais rien faire, je vais écrire. Et je me suis dit, tiens, je vais écrire sur quoi ? Ah ben, prenons Dieu, je vais écrire là-dessus, tiens. Comme ça, ça ne me fera pas chier toute ma vie, cette histoire. À savoir s'il n'existe pas, j'y crois pas. Donc, j'écris là-dessus une cinquantaine de petites nouvelles. C'est un livre à double entrée. D'un côté, c'est Dieu existe, c'est la droite qui a raison. Et de l'autre côté, c'est Dieu n'existe pas, la gauche non plus. Voilà. Et donc, toutes ces nouvelles m'ont permis de constater que toute la question de Dieu, et on est sérieux, on vient de parler du diable, parlons de Dieu, passe par le langage, passe par la parole. Et donc c'est essentiellement une question de parole. Il y a un philosophe chinois qui dit « qu'est-ce que j'aimerais parler avec un muet ?» Moi j'adorerais parler de Dieu avec un muet. Et à savoir ce qu'il a dans la tronche et comment sourd et muet, ou quelqu'un qui n'a aucun sens comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait de ça ? Bon, maintenant, c'est une affaire réglée pour moi, puisqu'on l'a situé dans l'armoire, dans le tiroir du langage. Et tout est langage. Les infos qui nous envahissent, la pub qui nous envahit. Enfin, c'est con de lire comme ça, mais c'est une réalité. Oui, ça passe par le langage. Ouais. Je raconte dans un spectacle, c'est très court, que j'achète un truc de shampoing, c'est écrit anti-pelliculaire, j'ai pas de pellicule, mais enfin, principe de précaution, comme on dit aujourd'hui, et que je vois qu'il est écrit en dessous. Il était anti-pelliculaire, en dessous, c'est écrit anti-récidive. Et alors là, j'éclate de rire, parce que j'ai dit quand même, voilà une question de langage. C'est-à-dire qu'un argument commercial est pompé au Front National pour lutter contre l'envahissement des pellicules. Je rigole, et là, les gens rigolent. Et quand on n'est pas contre, moi, je ne suis pas contre le racisme, contre le Front National, contre la multiplication des lois, je ne suis pas contre ça. Si, bien sûr, je suis contre, mais je ne vais pas dire que je suis contre parce que je vais être chiant. Mais je vais être chiant pourquoi ? Parce que, en général, le public il est d'accord avec moi. Mais en revanche, si je travaille sur le matériau de la langue qui est utilisée, c'est-à-dire comment on encule, comment on embrouille, on enfume, la plupart des verbes commencent par en. D'ailleurs, j'emploie enculer, non pas parce que c'est l'image est belle, mais pour son orthodoxie préfixale. Tu vois ? Enfumer, embrouiller, en papaouter, etc., etc. Et donc, quel outil on emploie pour tout ça, la langue. Donc je m'accroche à ça.
Alors Jean-Georges Tartare, je te propose d'écouter maintenant un jeune homme, un monsieur qui s'appelle Laurent Petit, pour qui le langage est très important aussi, puisqu'il fait... Il est membre éminent de l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, tendance lacanienne, donc pour dire que le langage est vraiment très important. Et pendant toutes ces émissions, Grenouille is beautiful ou Small is grenoutiful, comme vous voulez, sur Grenouille jusqu'à samedi prochain, il nous a proposé une chronique de psychanalyse urbaine par émission. Donc voici la première.
Bonjour à tous. Donc, pour bien comprendre la psychanalyse urbaine de la ville de Marseille, il faut savoir qu'en psychanalyse urbaine, on commence d'abord par chercher l'arbre généalogique de la ville étudiée, même si vous allez le voir, il va plutôt s'agir d'un arbre mytho-généalogique, puisque la plupart des ancêtres que nous avons détectés s'avèrent être des ancêtres mytho-logiques. Donc à commencer pour Marseille par la mer, hein, la montagne, la mer Méditerranée, la bonne mer, mais aussi je dirais la Provence qui sont un peu les parents géologiques et historiques de la ville. Mais l'ancêtre qui nous a le plus fasciné c'est Fossé, hein, Fossé, la ville de Fossé en Turquie, puisque Marseille est surnommée la ville phocéenne. Il faut savoir que donc Fossé d'une ville turque, qu'à l'origine c'est elle-même une colonie de la Grèce, Marseille étant une colonie de Fossé qui est une colonie de la Grèce. On a donc une mise en abîme du principe de colonie qui fait que dans les gènes même de la ville de Marseille, il y a des pulsions colonialistes, des visées expansionnistes concernant bien sûr les villes qui l'entourent. Et notez lacaniquement parlant que dans Fossé, il y a la notion de fossé, donc une notion de séparation entre Marseille et les villes avoisinantes. Plus intéressant encore, c'est que la légende nous apprend que c'est Protis, le phocéen, qui en moins 650 avant Jésus-Christ, vient dans la région de Marseille pour y faire réparer son bateau. Là, il tombe en pleine fête gauloise, le jour où le chef du village va marier sa fille Gyptis, Gyptis qui va choisir l'élu de son cœur en lui tendant sa coupe, bien sûr. Elle va donc choisir Protis, et ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire, c'est que là, caniquement parlant, encore une fois, dans Protis, on a quasiment les mêmes lettres que dans Pastis, hein, Protis, Pastis, avec, vous le voyez, le passage du Rho à l'As, hein, Rho, synonyme de renvoi, du rejet dont souffre Marseille par rapport aux villes avoisinantes, et la notion d'As. As, c'est la carte majeure, c'est la notion de capitale que devrait être Marseille dans les années qui viennent. Donc, génétiquement, génétiquement parlant, dans l'histoire même de la ville, on a ce passage du Rho renvoie à l'As, la carte majeure. Bon, pour anecdote, on a détecté dans Gyptis des consonances égyptiennes. C'est aussi une gauloise avec des cheveux noirs, donc gauloise brune, ce qui résonne avec la manufacture des tabacs de la Friche Belle de Mai, où est aujourd'hui tourné le fameux reportage, enfin la série Plus belle la vie, dans un quartier qui s'appelle Mistral et qui n'existe pas à Marseille. Donc on s'est demandé, là en psychanalyse urbaine, si on n'avait pas un signifiant très fort, c'est-à-dire une série télévisée qui est reconnue dans toute la France et qui se tourne dans un quartier qui n'existe pas, qui s'appelle le Mistral. Le Mistral qui est souvent vécu comme une calamité par les habitants de Marseille. C'est comme si dans le Nord-Pas-de-Calais, on tournait une série qui s'appelait Plus jolie l'existence et se tourner dans un quartier qui s'appellerait La Pluie. Donc voilà, quelques éléments de psychanalyse urbaine de la ville de Marseille.
Jean-Georges Tartar, alors que penses-tu de cette première psychanalyse urbaine de la ville de Marseille par Laurent Petit ?
Eh bien, j'adore, je suis fan, absolument fan. Je me suis marré en écoutant ces quelques minutes parce que c'est un discours qui est tellement à côté de tout ce qu'on entend que je peux que non seulement rire, mais c'est comme si je prenais un grand bol d'air. On parlait des discours tout à l'heure, les discours sur Marseille sont tout faits, ils existent, enfin bon, et les clichés, les poncifs, tout ça. Et puis là, tout d'un coup, on est complètement ailleurs, dans la géologie, dans la mythologie, et puis dans Plus belle la vie, donc ça fait un chaos assez inattendu, et qui fait du bien aux poumons, du cerveau, voilà. Et s'il m'écoute, je suis fan, complètement.
C'est quoi, toi, Jean-Georges, ton rapport à Marseille ?
Ma première chose, c'est que moi, je suis un enfant de la DAS, j'étais adopté. Donc, je sais ce que c'est que d'être adopté. Je suis du Nord, j'ai quitté dès que j'ai pu parce que le brouillard, ça m'a suffi pendant 20 ans. J'allais faire un peu d'études à Paris et dès que j'ai pu, je me suis cassé dans le Sud. Je voulais absolument être au soleil. J'avais fait un séjour au Tchad entre-temps, obligatoire, l'armée. Et quand je suis arrivé à Marseille, j'avais 6 ans de chevaux, j'avais 10 francs en poche et j'ai été adopté. Et comme je sais ce que c'est que d'être adopté, j'ai pu bien l'apprécier. Marseille, c'est la ville qui m'a adopté. 10 fois en poche, j'ai toujours bouffé. J'ai toujours eu des amis. Et puis, adopté, une petite anecdote comme ça, au tout début, j'ai acheté je ne sais plus quoi, peut-être un truc, je ne sais pas quoi. Et puis, j'arrive dans mon bistrot et je dis, oh, regardez, j'ai acheté ça. Puis les gens me regardent, les clients me regardent, les amis, et ils me disent, mais... Il me faut la tronche, quoi. Il me dit, pourquoi tu ne nous as pas parlé que tu avais besoin de ça ? Quelle adoption ? On m'a dit, pourquoi tu te crois encore seul ? Tu crois que tu as abandonné encore ? Non, on est là. Tu nous parles de ce que tu as besoin. C'est génial. Ouais.
Et cette ville-là existe toujours ?
Ouais, je suppose qu'elle existe toujours. Moi, je suis un mec de bistrot. Je bois, j'ai bu en tout cas, et j'écris dans les bistrots. Parce que j'adore le bordel. Plus il y a de bordel, plus ça me sécurise et mieux j'arrive à écrire. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que quand même une petite nuance sur est-ce que cette ville existe toujours ? Faut pas faire de passé. Néanmoins, j'ai croisé c'était un auteur qui a écrit un bouquin sur les bistrots de Marseille. Il s'appelle je crois 51. 51 bistrots, et il m'a dit que ça a été écrit il y a 2-3 ans et qu'il y a la moitié des bistrots qui ont disparu. Donc ça, peut-être ça disparaît encore, mais je compte bien sur la force des Marseillais qui, je sais, en ce moment se plaignent un peu de ne pas pouvoir jouir dehors de moins en moins pour résister. Et je crois qu'ils résistent, ouais.
Alors, c'est avant d'arriver à Marseille, donc tu disais que tu avais fait, tu étais parti du Nord, je crois que c'est Roubaix, c'est ça ?
Ouais, c'est pas Roubaix, je dis Roubaix parce que Roubaix, tout le monde connaît, tout le monde connaît.
D'accord.
Et en fait, je suis né à Lille, et puis j'étais abandonné, tant mieux. Et puis après, j'ai vécu dans sur un quartier qui est à cheval sur la frontière, un tout petit truc, où il y avait toujours 400 camions, parce que c'était sur l'axe entre Paris et Amsterdam. Et alors, j'en parle parce que cet endroit s'appelle Risquons-Tout. Alors, quand on a passé toute son enfance dans un quartier qui s'appelle Risquons-Tout, ça aide beaucoup.
Et donc, à Paris, tu as fait des études, non des moindres. Tu étais à la Sorbonne, je crois, Institut d'études théâtrales.
Nouvelle, Institut d'études théâtrales. À partir du moment où je me suis lancé dans le théâtre, j'ai trouvé ma place là-dedans, je me suis dit, il me faut des outils. Et donc, j'ai cherché... à l'époque, je pratiquais pas, je veux dire, je jouais pas. J'écrivais, mais je jouais pas mes textes. Et donc, je me suis dit, il me faut les meilleurs outils, il faut du FACOM. Où est-ce que je vais aller chercher ces FACOM théoriques-là? Et c'était à l'Institut d'études théâtrales. Et il y a un type qui s'appelait Bernard Dorth, qui était un peu plus ou moins créateur de cette unité, que j'ai croisé un jour. Et puis on discutait. Et puis il me dit, tu lis quoi? Alors j'ai dit, je lis tel bouquin, ce théâtre, tel bouquin. Et il me dit, mais tous les gens que tu lis sont profs chez moi. J'ai dit, ben alors j'arrive. J'habitais dans un, parce que j'ai toujours été nomade, dans ce qu'on a un J7 Peugeot. Et donc j'ai pris mon J7 et je suis parti là-bas. Voilà.
Et qu'est-ce que tu as appris là-bas, hein?
J'ai appris plein de choses que j'ai oubliées. D'abord, j'ai fait du pillage d'outils. C'est-à-dire, j'ai pas assisté à tous les cours. J'ai pris les cours qui m'intéressaient, avec les hommes qui m'intéressaient le plus, qui étaient le plus dans de la générosité dans leurs trucs. Et ben, des trucs théoriques sur la sémiologie, la narratologie, l'histoire du théâtre, la scénographie, l'écriture théâtrale, l'écriture dramaturgique, la dramaturgie, tout ça, tout ça. J'ai pris tous ces outils qui me sont encore utiles aujourd'hui. Mais je suis un peu comme un vieil artisan, je les emploie avec un tel naturel qu'ils font partie de moi, quoi. Et c'est important, comme j'écris beaucoup, j'ai l'écriture peut-être un petit peu littéraire, comme ça, musicale, littéraire, mais quand on écrit pour le spectacle, c'est une autre affaire. Il faut que ça dure une heure, il faut que ça marche, il faut que ça passe, il faut que les gens soient contents, même si tu parles du bordel humain, de la saloperie humaine, il faut que ça passe. Parce que c'est mon métier. Donc il y a des trucs, il y a des ficelles, il y a des... Et pourvu que tu les emploies avec authenticité, il faut les employer. Enfin, c'est bien de les avoir pour ne pas faire chier le monde, quoi. Ouais, et que ça passe.
Il y a eu d'autres rencontres aussi marquantes que celle avec Bernard Dorth ?
Il y a eu, puisque je voulais les meilleurs. Je me sentais comme un sportif, je voulais être avec les meilleurs entraîneurs. Donc il y a eu ses profs, et puis il y a eu un homme qui a, lui, les mains dans le cambouis, c'est du Fred Roll que j'en parle comme ça, il est mort aussi, Antoine Vitesse, metteur en scène. Donc j'ai dit, je veux travailler avec le meilleur. Donc je lui ai proposé, il m'a dit non. Et il m'a foutu, foutu dehors, quoi. Et je suis rentré par la fenêtre. Et donc, voilà, j'ai assisté avec lui à deux mises en scène. L'une qui est la première tragédie française, en langue française, Hippolyte de Garnier. Et l'autre qui est le premier opéra, qui est l'Orfeo de Monteverdi. Et ça a été pour moi un truc de formation absolument génial. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un contexte, c'est un peu comme pour les restaurateurs, il ne faut pas de diplôme pour être metteur en scène, donc un peu n'importe qui s'y met, et ça provoque des dégâts épouvantables quelquefois. C'est quoi les dégâts épouvantables ? C'est qu'on fait du théâtre pour cracher sur le pouvoir, en tout cas l'analyser, et t'as un mec qui arrive et qui joue le pouvoir, il se rend pas compte qu'il fout le bordel, il fout le verre dans le fruit, voilà. Donc avec Vitesse, j'ai appris à distinguer deux choses, c'est le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir, c'est ce que tu prends, c'est nos maires, nos élus, nos députés, tu fais une campagne et tu prends le pouvoir. L'autorité, c'est ce que tu gagnes. c'est l'expérience qui te l'offre. Donc Vitesse, homme d'expérience et d'une culture immense, n'usait même pas d'autorité, et il était d'une autorité naturelle fantastique, et le plus souvent silencieux, ou répétant plus ou moins les mêmes choses, non pas parce qu'il était gâteux, mais parce qu'il savait que ce qu'il y a à transmettre aux comédiens, ça passe pas par des discours théoriques, ça passe par une sympathie au sens étymologique, c'est-à-dire un partage du sentiment à passer là. Et voilà, et ça, c'est resté dans le crâne, quoi. Et d'ailleurs, j'ai tellement bien appris ça que depuis, je fais plus du tout de mise en scène. Terminé.
Oui, dans les mots.
Ouais, dans les mots, oui. Et en tout cas, j'ai toujours refusé de me faire mettre en scène. Voilà.
Je crois que tu as fait de la radio aussi, Jean-Georges Tartare, sur une péniche. Il me semble avoir entendu parler de ça.
Ah ouais.
L'histoire de livre ambulant.
On est en 81, la gauche arrive, Mitterrand pointe le nez, il libère les radios, et puis il y a eu cette dynamique formidable. Hein, qu'on a, et j'en ai fait avant, j'ai fait Radio Campus, je crois que c'était à l'université de Lille, et là ça nous fait basculer en 75, carrément. On donnait des interviews avec une cagoule sur la tête. Et ben ouais, le Ku Klux Klan de la radio libre. Et puis après, donc 6 ans plus tard, ça a été libéré. Et il y a eu le moment où j'étais à Paris, il y a Radio Montmartre qui se créait. On a fait une émission avec un copain qui avait une culture littéraire immense. Moi, j'y connaissais rien, donc ça donnait un duo intéressant. Il y a eu voilà. Et puis à Avignon, on débarquait 3 péniches avec 3 studios. Il y en a une qui venait de Lyon, les autres je ne sais plus de où, qui s'envoyaient côte à côte. Et puis on faisait des émissions comme ça. La préhistoire, voilà, a pris son pied avec ça.
Small is Beautiful, c'est à Marseille depuis le 5 octobre dernier jusqu'au 16 octobre prochain, et sur La Grenouille à partir de ce soir et jusqu'à samedi prochain également. On est en compagnie de Jean-Georges Tartare encore pour une petite vingtaine de minutes. On fait une pause musicale et on retrouve après la promenade du jour de Nicolas Mémin.
Humming to the sounds of wire, blowing to the wind of lyre. It was said, you would stand strong forever. It was said, you'd keep us from fever. Breaking the old fake and mirror, burning the image of error. It was said, you would keep holy garden. It was said, you'd hunt snakes from heaven. Creaking is the house of wisdom.
Immensity, théâtre à l'envers, qui seront dans Small is Beautiful la semaine prochaine, en début de semaine prochaine, à la gare Saint-Charles. Donc il y aura plusieurs rendez-vous avec eux si vous voulez les entendre jouer. C'est un collectif qui fait aussi bien la musique, du théâtre, des installations, des choses comme ça. Vous écoutez La Grenouille, donc c'est Small is Beautiful sur La Grenouille, Grenouille is Beautiful, Small is Grenoutiful. La promenade du jour, c'est une chronique qu'on va retrouver également tous les soirs jusqu'à samedi prochain dans cette émission. Elle est signée Nicolas Mémin, que pas mal de Marseillais connaissent. Il dit qu'il est un montreur d'ours en béton, et certains disent que c'est un urbaniste gonzo, et aujourd'hui il nous amène du côté de Port-de-Bouc.
Port-de-Bouc, port de la bouche. Alors pourquoi pas passer un week-end à Port-de-Bouc ? Il doit bien y avoir un hôtel à Port-de-Bouc. Quand on traverse Port-de-Bouc par l'espèce de voie rapide, là, il me semble que sur la droite, il doit y avoir un espèce de motel américain des années 50 qui s'appelle le Super Panoramique. Donc vous pouvez passer le week-end à Port-de-Bouc. Et pourquoi Port-de-Bouc ? Parce que Port-de-Bouc n'est pas Martigues et que Martigues a l'argent pour faire la publicité pour dire que Martigues c'est bien alors que Port-de-Bouc n'a pas cet argent-là. Et donc vous allez pouvoir sortir des sentiers battus et ne pas être victime des informations. Port-de-Bouc a été une ville créée à partir de rien par un décret impérial de Napoléon Ier, qui a créé la ville et le port de Bouc. Et il y a un très beau texte d'Alexandre Dumas qui passe par là et qui raconte qu'on lui fait visiter la ville de Bouc, qu'il n'y a rien, c'est un terrain vide, qui n'a guère qu'une auberge, et puis un poteau en bois sur lequel il y a un petit panneau, et sur lequel est agrafé l'arrêté impérial qui déclare que cette zone est une grande ville. Dumas raconte très bien qu'on lui a fait visiter la bourse, le temple du commerce, et que là il a tué un canard. On lui a fait visiter la grande rue des banques, et que là il a tué un lièvre. Et vous avez encore cette ambiance à Port-de-Bouc de ville sortie de nulle part, une espèce de rêve. Si vous passez le pont au-dessus du canal d'Arlabouc, vous avez tout d'un coup une espèce de sensation de Saint-Pétersbourg. Le canal fait une perspective très, très 18e dans le dessin paysager, axé sur le fort de Bouc qui est de l'autre côté. Et en même temps, la ville devient une espèce de rêve construit, mais prêt à disparaître en un clin d'œil. Alors, pourquoi est-ce que Port-de-Bouc est si fragile dans sa chair ? C'est qu'elle a vécu et s'est construite autour des chantiers navals. Il y avait là-bas un grand chantier naval qui a fermé dès le début des années 70, qui a été complètement rasé, dont il ne reste rien ou presque rien. Et donc le cœur de la ville était une énorme usine qui a disparu, ce qui fait qu'il est très difficile de la comprendre. Et cette ville de chantier, c'est une ville d'ouvriers qui maintenant beaucoup se sont retrouvés au chômage, qui cherchent un second souffle sans réellement le trouver, mais vous avez là un caractère populaire de gens qui travaillent, qui étaient fiers de leur boulot. Et alors je me rappelle de détails comme on rentre dans un bar et le type du bar nous raconte que tout l'intérieur du bar a été fait avec des matériaux qui ont été... tomber du camion, des matériaux qui ont été discrètement emportés depuis le chantier naval. Donc vous avez alors des espèces de formica jaune qui servaient à habiller l'intérieur des porte-bananes, des bananiers, et ça devient un bar en formica vu sur le canal à Port-de-Bouc. Vous avez ce grand ensemble HLM qui s'appelle Port-de-Bouc-Lalec, qui est un grand ensemble de l'opaque du milieu des années 70, qui lui aussi a remplacé une ancienne usine très polluante qui était Kuhlmann-Saint-Gobain. Et c'est un des rares exemples de gros HLM avec vue sur la mer. Vous êtes directement au bord de la mer, la plage est extrêmement belle, c'est des rochers. Au loin, vous voyez passer les super tankers qui vont jusqu'à Fos. Et puis parmi les rochers, certains sont plus du béton armé que d'autres. D'autres rochers sont plus des fonds de four de hauts fourneaux que d'autres. Et finalement, on s'aperçoit que la pollution, c'est pas bien grave. Hein. On est dedans et puis on peut s'y baigner et regarder passer les pétroliers. Vous avez une très très bonne pizzeria à la plage des Combattants. Et de là, continuer sur la plage, aller vers Fos-sur-Mer. Voyez au loin cette silhouette de taureau à contre-jour, c'est la grande usine Solac. Approchez-vous, approchez-vous. Et vous avez cette grande plage de Saint-Gervais, qui est une grande ligne qui doit faire 2 ou 3 km, que vous ne pouvez pas quitter parce qu'elle est coincée entre la mer et le canal, et il n'y a pas de pont pour passer sur la terre. Donc vous êtes vraiment au bout du monde. Et au bout du bout du bout de ce bout du monde, vous avez le port de Saint-Gervais, qui est le port de Fosse, juste au bord de Fosse-sur-Mer. Et appréciez, réjouissez-vous, parce que cet endroit risque d'être déclaré impraticable et interdit au public dans quelques années, lorsque les administrations vont renforcer les périmètres de sécurité autour des grandes usines. Cette grande plage publique risque d'être fermée.
Voilà l'idée de balade proposée par Nicolas Mémin. C'est un coin que tu connais, Jean-Georges, ça, Port de Bouc, cette plage-là
Non, je ne connais pas, mais le salier, là, je connais, parce que c'est tellement bien décrit, on y était. C'est un des charmes de la radio, comme ça, on a l'impression que quelqu'un te parle à l'oreille, et puis comme il y a, dans le fond, comme ça, les pas sur les graviers, j'y étais complètement, on a envie d'y aller. Il y a une chose que je n'ai pas comprise, mais... Mon collègue qui fait le commentaire doit savoir ce qu'il dit. Il dit que les périmètres de sécurité autour des usines vont être élargis, donc la plage va être supprimée. Moi, je crois qu'il faudrait faire des périmètres de sécurité autour des plages et peut-être que cette usine disparaisse.
Cette pratique de la promenade, elle s'est développée là, depuis plusieurs années. Maintenant, beaucoup de gens se promènent, des architectes, des froqués, des urbanistes, des artistes, des poètes, des commerciaux aussi, des euromèdes et tout ça. Toi, c'est une pratique que tu as aussi, la promenade. C'est un endroit où tu te promènes, Marseille. Bah, on sait que tu te promènes autour du monde, mais ici, c'est une pratique que tu as.
Oui, d'une façon particulière, que ce soit dans mon quartier à Marseille ou au bout du monde, je fais pareil, je pose mon cul dans un endroit et je ne bouge plus. Voilà, je ne cours pas.
Ça permet.
Tu vois le monde qui circule autour de toi, il y a toujours quelqu'un qui vient s'asseoir, il y a toujours quelqu'un qui vient me parler. Et là, dans l'immobilité, en tout cas, quand tu as envie de photographier ou de photographier ou de faire l'éponge par rapport à un lieu, mon truc à moi, c'est plus immobilité, le chat. Y compris quand j'étais dans les bistrots, j'adorais quand les gens m'oubliaient. Et ils arrivaient, quand tu es un mec qui écrit, les gens t'oublient. Quoi. Quand ça fait des années que t'es là, t'es comme le chat sur la cheminée. Et en fait, t'absorbes tout, plam, 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 tout ce qui passe. C'est un peu comme un scanner. Donc, si tu bouges, tu ne fais pas le scanner. Que ce soit en Haïti, par exemple, j'ai passé plusieurs mois dans un hôtel de Port-au-Prince. Et puis, il suffisait de voir les gens qui passaient pour avoir un scanner de tout Port-au-Prince et donc d'Haïti, puisque la plupart des Haïtiens y passent. Voilà.
Tu es allé en Haïti, en Guinée, en Asie, tout ça. Tu as fait le monde entier.
Monde entier sans monde entier. Je n'ai plus dedans.
Ça se ressemble un peu de partout. Est-ce que tu sens, tu sais, on parle de cette uniformisation, de cette mondialisation, tout ça, c'est quelque chose que...
Ça se ressemble, mais pas aux gens, pas dans ce sens-là. Il y a sûrement l'uniformisation. Quand je reviens de l'Inde et que j'arrive à Marseille, que j'entends mes potes rockers en train de répéter en anglais, j'éclate de rire, quoi. Parce que je sais que c'est l'après-guerre, le rock'n'roll, le plan Marshall, tout ça, ils ont fait de l'action culturelle, ils ont réussi, ça y est, quoi. L'Inde, par exemple, se fait pas du tout manger par les États-Unis, je dis pas l'Amérique, ils sont dans leur jus, et à ma vie, ils y resteront encore quelques milliers d'années. Non, ce qui ressemble, c'est l'humanité. Et on est tellement dans un monde qui aime les étiquettes, qui a besoin des étiquettes jusqu'au fascisme, jusqu'à la xénophobie, que ça fait du bien de te rendre compte que dans un tout petit village perdu là-bas, au cœur du Laos, t'as les mêmes figures que dans un quartier de Marseille. Finalement, l'humanité, elle est pareille, quoi. T'as des mecs qui disent que les bonnes femmes n'arrêtent pas de parler, c'est eux qui n'arrêtent pas de causer. Dans le village, t'as un philosophe alcoolique, t'as un emmerdeur dont tu peux pas te passer parce qu'il sait un million de choses. Dans ce sens-là, l'humanité se ressemble absolument. Quand on parle toujours de la, quand on parle des rapports, par exemple, entre la France et l'Afrique, on est toujours un peu dans ce que j'appelle la chromo-dictature. C'est une dictature de la parole sur les différences de couleurs, de cultures, tout ça. Alors qu'il y a des connexions très puissantes dont on ne parle pas. On est allé coloniser là-bas, donc on a envoyé des militaires, des missionnaires, des commerçants, mais les paysans ne sont pas allés. Mais si tu mets un paysan de Guinée avec un paysan de Belgique, les deux là ensemble, il ne va pas se passer 10 minutes avant qu'ils soient frères. Parce qu'avant d'être guinéen ou belge, ils sont paysans. Donc, dans ce sens-là, il y a des ressemblances. Ouais.
Donc cette idée de promenade là, c'est quelque chose bon qui se développe de plus en plus et qui me semble participe un peu aussi de cette tentative. Enfin, c'est pas une tentative, mais de ce renouvellement des arts de la rue qui après se sont appelés arts de la ville.
Je suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe.
Qui maintenant s'appelle art en espace public. On cherche, alors, ouais. Je sais pas si on cherche les étiquettes ou si on cherche, comme toi dans ton fictionnaire, à nommer les choses et à dire ce que c'est, ouais. Mais on a l'impression qu'on se cherche, en tout cas, là-dedans, dans les arts de la
ville. Je ne me cherche pas trop, je te le dis. Hein. Donc, comme il y a une intégration du théâtre de rue, moi je dis théâtre de rue exprès comme ça, avec les apostrophes, quoi. Comme il y a une intégration sociale, comme ça, donc ça devient un peu courtois. Donc ça parle d'art urbain, ça parle de porosité, ça jargonne comme ça, c'est un langage des narcs un peu, quoi. Je peux pas être contre ça, c'est comme ça, ça prend cette couleur-là, c'est pas du tout la mienne. Parce que, si on parle de promenade, aller vers les gens, tout ça, c'est un côté un peu curé, comme ça on écoute, même moi quand je viens d'en parler, c'est un côté, eh ben, on va tamiser les choses, ça va être bien, on est heureux ensemble, on écoute les ouvriers qui disent des choses intéressantes. C'est pas mon truc du tout, du tout. Pourquoi ? Parce qu'idéologiquement, c'est porteur de quelque chose, c'est porteur d'une réconciliation dans le cadre d'un merdier social. Donc, c'est porteur d'un plan d'apaisement social, alors qu'on est dans un contexte d'explosion possible. Donc moi je suis plutôt du côté de comment on va faire exploser les choses, plutôt que d'apaiser les choses, quoi. Et je suis énervé tous les jours, c'est pour ça que j'ai écrit un gros bouquin, 500 pages là-dessus, par cette idéologie de l'apaisement, cet angélisme-là, quoi. On nous dit par exemple, pas à moi parce que j'ai pas de subvention, on nous dit « allez vers les gens ». Alors, aller vers les gens, en coulisses de pensée, comme ça, il y a une générosité, comme ça. Mais moi, si je vais chez les gens, c'est peut-être pour déclencher la révolution qui est à l'œuvre, qui est en Gésine, qui est sous le boisseau, et pas forcément pour apaiser le monde, quoi, qui a peut-être pas besoin d'être apaisé, mais qui a besoin peut-être de se mettre en colère.
Jean-Georges Sartard, j'ai entendu les bords-parleurs, là, qu'on a enregistré les chroniques, on les entendra tout à l'heure à la fin de l'émission, justement, qui prennent une définition de ton grand fictionnaire du théâtre de la rue et des boniments contemporains, qui est sorti aux éditions Entretemps dans la collection Carnet de rue, et il reprenait cette définition, ce propos, cet aphorisme où tu disais avant la rue ça sentait la merde et maintenant il y a les camions tout ça qui balancent des produits tout ça et maintenant la rue ça sent plutôt les chiottes. Est-ce qu'il s'est passé la même chose?
J'explique un peu.
Est-ce qu'il s'est passé la même chose pour la rue que pour le théâtre de rue?
Ouais, j'explique d'abord le truc, c'est que je me promène le matin dans une ville et je vois que les mecs sont en train de nettoyer, c'est leur boulot, et je remarque qu'avant il fallait que les rues soient propres, maintenant il faut qu'elles soient en train d'être nettoyées. Donc c'est ce que j'appelle l'helvétisation, la suicisation, pas loin du suicide, de la rue, de l'extérieur. Et en plus je remarque qu'ils parfument. Et donc, c'est là où je dis, avant les rues sentaient la merde, maintenant elles puent le chiotte, c'est le sens du progrès. Est-ce que ça arrive au théâtre de rue un petit peu, ouais, un petit peu, le raccourci est saisissant, mais je veux bien le prendre. Mes confrères du théâtre de rue savent que je ne suis polémique que quand j'aime les gens. Donc ouais, pourquoi pas, oui, sûrement, le parfum étant, encore on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les mots qui sont posés sur les choses, quoi. On nous dit, allez faire de l'action culturelle dans les quartiers ouvriers parce que soi-disant il n'y a pas de culture, et merde, il y a une culture dans les quartiers ouvriers et ô combien puissante. Seulement c'est pas une culture comme de l'intégration, c'est une culture syndicale, c'est une culture de lutte ouvrière, ça va ensemble. Et je fais pas de politique là, je viens de ce milieu-là, donc je sais ce qu'ils s'y pensent. Et quand on me dit, ah, peut-être tu feras un truc, c'est rare parce qu'on sait que je vais refuser, un truc dans un quartier ouvrier, un quartier paumé, je dis, faites-moi jouer dans les quartiers bourgeois où j'ai pas besoin des autres, je vais jouer dans les quartiers riches, parce que c'est dans ces quartiers-là que les gens n'ont pas compris. Et qui sont en train de penser Proust, contre lequel je n'ai rien, pendant qu'on crève la dalle, quoi.
Alors Jean-Georges, on arrive bientôt au terme de cette émission, on terminera avec la chronique des beaux parleurs. Donc je rappelle tes deux livres qui sont parus aux éditions L'Entretemps, l'un dans la collection Scénogramme, c'est AAAAA, et l'autre dans la collection Carnet de rue, c'est Le Grand Fictionnaire du Théâtre de la Rue et des Monuments Contemporains. On en aura un extrait avec les beaux parleurs tout à l'heure, mais juste pour terminer sur cette soirée, donc c'est la nuit tartare, on rappelle que ce n'est pas à Corbière pour cause de Mistral trop impressionnant, mais dans le local de lieu public à Saint-André, rue Condorcet, donc 6h30, l'intégrale DA, plus une exposition, tout ça. C'est quelque chose que tu as déjà fait, l'intégrale, ou c'est la première fois?
Pas à ce point-là, puisque je l'ai faite il y a 2 ans et il y avait 2 spectacles en moins. Voilà, et c'est un grand plaisir. C'est le grand plaisir, je m'en suis aperçu la première fois que j'ai fait une intégrale, c'est de voir devant soi des spectateurs qui ont signé pour 4, 5 ou 6 heures. Ça, c'est un putain de contrat dont tu as envie d'être digne, et ça te file une énergie incroyable.
Et parce que c'est une putain de performance aussi, pour rester poli.
Pas tant que ça, faut pas se laisser impressionner. C'est quand même pas le Tour de France.
Merci beaucoup Jean-Georges Tartare d'avoir passé ce moment avec nous. Donc je rappelle, Small is Beautiful à Marseille depuis le 5 octobre dernier jusqu'au 16 octobre prochain. Sur La Grenouille tous les soirs jusqu'au 16 octobre de 18h à 19h, une émission spéciale avec un invité en fil rouge. Ce soir c'était Jean-Georges Tartare. Demain ça sera Laurent Petit de l'Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine, un Lillois aussi.
C'est le meilleur. Et puis puisque j'ai la parole, je disais, c'est quand même ma performance, c'est quand même pas le Tour de France, mais c'est quand même le Tour du Monde.
Voilà. On se quitte avec donc la chronique des beaux parleurs, dans laquelle vous trouverez un extrait du Grand Fictionnaire, un horoscope, un proverbe à titre, enfin pas mal de choses. Je vous rappelle également que La Grenouille, en même temps qu'elle est à Marseille, elle est à Bordeaux pour l'événement Evento, et que donc tous les matins à 9h30 et à 11h, vous avez rendez-vous 9h30 avec des inventaires désinventés et à 11h avec l'éventail d'Evento. Evento, c'est ce grande manifestation autour de la création artistique dans l'espace public, dans la ville aussi, qui se déroule à Bordeaux en ce moment. Merci d'avoir été à l'écoute. À bientôt. Je suis sûr que j'oublie des choses, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Et on se quitte avec les beaux parleurs. Bonne soirée à toutes et à tous.
Proverbe à titre.
Des beaux parleurs.
Aïe.
Titre. Terre tartare. Farid, s'il te plaît.
Mieux vaut tartare que jamais.
Bien.
Le mot du fictionnaire.
Des beaux parleurs.
Non, de Jean-Georges Tartare.
H. Hurluberlu. Doudingue. Avec le maboule, le siphonné et le toqué, la troupe est au complet. S'il reste du blé, on peut engager le fêlé. Le frappadingue est bénévole, mais si la draque nous suit, on complétera avec le malade, le fou furieux, le siphonné, le fou allié, l'enragé, la normale, bizarre, dément, demeuré, dérangé, désaxé, ch'tarbé, détraqué, extravagant, fatigué, malade, atteint, azimuté, barjo, branque, branquignol, braque, brin de zinc, cinglé, sinox, cintré, dingo, dingue, échappé, fada foldingue, folingue, fondu, frappé, givré, jeté, lobotomisé, louf, loufoque, loufdingue, maboule, marteau, ouf, pété, piqué, sinoxiphoné, sonné, tapé, timbré, toc toc, toqué, tordu, zinzin. Tout le monde est là, on est prêt, très bien, on peut travailler du chapeau.
C'est l'horoscope !
Des beaux parleurs. Bélier. Problème de migraine ? Arrêtez d'enfoncer les portes ouvertes.
Taureau, lâchez-vous. Allez à la piscine, vous y rencontrerez peut-être l'amour vache.
Gémeaux, vous gémissez en juin, vous geignez en janvier, eh bien, mangez du gingembre, vous gigoterez jusqu'en juillet.
Cancer.
Dommage.
Pardon.
Lion. Vous avez le poil terne et l'haleine chargée. Faites une cure de gladiateur.
Vierge, profitez-en. Ça ne durera pas. Si le symptôme persiste, consultez un spécialiste.
Balance, arrêtez de charger les autres. Prenez un peu sur vous. Surveillez vos arrières et quittez le milieu.
Scorpion, vous manquez de piquant ? Voyez Dardar un hérisson.
Sagittaire, économisez vos flèches. Vous n'avez plus qu'une seule corde à votre arc.
Capricorne, vous manquez de souplesse. À force de vous cabrer, vous risquez de finir sur un lit de salade avec un vieux crouton.
Verseau, vous prenez l'eau de toutes parts. Il est temps de vous remettre à flot. Faites-vous colmater la brèche.
Poisson, à force de tourner en rond, vous vous agitez le bocal et vous vous noyez dans un verre d'eau. Sortez la tête de l'eau et allez vous faire paner la nageoire.
Oh, l'agenda du jour ?
Erra, c'est du lendemain !
Samedi 8 octobre. Vous aviez prévu d'aller faire vos courses à Plan de Campagne. C'est une très bonne idée. Et n'allez surtout pas à Martigues. Entre 14 et 22 heures, vous pourriez vous prendre un spectacle sur le coin du nez, au détour d'une rue. Et en plus, c'est gratuit. Lamentable. Si vous ne supportez pas l'imprévu, encore plus de surprises sur le site www.lieupublic.com. Et si vous êtes perdu, rendez-vous au point info Place des Airs, à Martigues, bien sûr.
Les beaux parleurs.